Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette première partie, on va dire, pour ces chants, ces louanges, pour la lecture aussi de la parole de notre Seigneur, et que le Seigneur puisse encore cet après-midi nous éclairer au travers d'un témoignage d'une vie, en fait, d'où le titre « Les enfants de Muller ». Donc on va se pencher un peu sur la vie de cet homme, qui s'appelle Muller, me faire découvrir, mais on va découvrir ensemble le contenu de sa vie de prière. Puis nous verrons en conclusion et quelques éclairages au niveau de la Bible. Mais les versets d'introduction déjà nous en apprennent déjà certaines choses, des choses simples, essentielles. Hein. Je demande, on nous donne, je cherche, je trouve, je prends, je frappe, on m'ouvre. Ça paraît, je ne vais pas dire ça paraît, c'est tellement évident. Mais est-ce qu'avec le Seigneur, nous le faisons? Car quiconque demande reçoit, dit le Seigneur. Voilà, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Le deuxième verset, ce n'est que la répétition du premier. Et puis quand on voit Élie, la prière d'Élie, les conséquences de sa prière, voilà, c'était un homme de la même nature que nous. Déjà, on ne le présente pas comme un surhomme de Dieu, comme un être exceptionnel au-dessus de nous. Non, il est de notre nature. Et il prie avec insistance pour qu'il ne plus froid. Il a demandé pour recevoir. Et sa prière fut exaucée. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Muller, justement. Donc, ce remonte dans les années 1800. En pleine époque victorienne, un homme a su effacer les effets de la révolution industrielle et les avancées technologiques en s'en remettant simplement à Dieu. À cette époque où la pauvreté extrême touchait la quasi-totalité de la population, le cœur compatissant de Georges Muller a démontré avec force que la prière était efficace, comme celle d'Élie. Alors, on va voir les débuts difficiles de Muller, puis un peu sa transformation et sa vie de prière. En tout cas, sa recherche de l'efficacité de la prière. Alors, il est né en 1805 d'une famille incroyante. Le petit Georges fut destiné très tôt par son père à devenir ministre du culte dans l'église d'État. On va voir pourquoi. Quelques années après sa naissance, à l'âge de 14 ans, dans la nuit de la mort de sa mère, Georges Muller était avec ses amis à jouer aux cartes dans une taverne. Il passait beaucoup de la journée à boire. Il n'était même pas au courant de le décès de sa mère le lendemain. Et à 16 ans, Georges a passé 5 semaines de prison pour non-paiement de facture. Il a été libéré parce que son père lui a envoyé l'argent. Et c'est là que, à l'instigation de son père, mais pas pour la raison de servir Dieu, on va noter la différence, mais pour s'assurer une vie confortable, il était une évolution de carrière comme sur. Alors, cela assurait à Georges un emploi comme pasteur avec un bon salaire. Les pasteurs étaient rémunérés par l'État, donc c'était un emploi stable et confortable. Je ne vais pas faire le lien avec les fonctionnaires, mais longtemps on a utilisé cette image comme quoi une fois que la personne était fonctionnaire, c'était à vie. Ainsi, étant fonctionnaire, son avenir serait assuré, pensait-il. À l'adolescence, étudiant la théologie, il vivait une vie complètement désordonnée, s'adonnant aux jeux, à l'alcool et aux vols. Jusqu'à ce qu'il rencontrât un ami. Il fréquenta une réunion de prière où la ferveur et l'intensité le touchèrent profondément. Alors, je fais une petite parenthèse, d'où l'importance de ne pas hésiter à inviter ses amis, ses proches, ses collègues à une réunion. Parce que c'est vraiment dans ce cas-là aussi que le Seigneur peut démontrer qu'est-ce que c'est que la vie d'un chrétien. Ce n'est pas toujours évident d'exposer et de partager sa foi dans le dans le milieu du travail, mais à l'extérieur, nous en avons pleinement la liberté. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et le contact avec ce niveau de piété inconnu de lui jusqu'alors le bouleversa, au point qu'il mit sa vie en règle avec le Seigneur et se destina à être missionnaire afin de le servir. Voilà, la prière a transformé en homme. Et on va voir jusqu'où, parce que ça, c'était vraiment que le départ. Âgé de 24 ans, il arrive à Londres et tombe gravement malade et près de mourir. Il fut remis sur pied par la grâce de Dieu, et cette résurrection eut l'effet profond d'une transformation autant de sa foi que de sa consécration. Les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous détruire, pour nous casser. Mais Dieu permet que nous apprenions, que nos vies soient transformées et que nous passions à une étape supérieure. En convalescence dans le sud, à Taïmouth, il entreprit un ministère pastoral, absolument convaincu que Dieu pourvoirait à tous ses besoins, hein, comme nous avons lu dans les premiers versets. 3 ans plus tard, en 1832, il déménageait au nord, à Bristol. Voilà. Mon père est devenu missionnaire. Il commença très tôt à s'impliquer auprès des enfants. Là, on se rapproche de notre titre, hein, des enfants de Muller. Tout d'abord en fondant l'institution des connaissances bibliques pour la maison et pour l'étranger, désirant fournir aux enfants une éducation adéquate et biblique. En 1835, 5 écoles étaient fonctionnelles et auto-gérées uniquement par des dons. À Bristol, devant la pauvreté dont les enfants étaient victimes, il commençait à accueillir des orphelins chez lui, d'abord, afin de leur fournir un petit déjeuner et 1h30 d'éducation chaque matin. Au début, 5 enfants, puis 30, jusqu'à 130 enfants en 5 ans furent hébergés par la famille Muller. Et Muller avait un principe de foi, qui était le suivant. Nourrir, héberger et habiller tous ses enfants, ben, même à cette époque-là, ça représentait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, c'est d'actualité aussi avec ces réfugiés qui arrivent. Ça représente quelque chose. Muller avait la profonde conviction que Dieu pourvoirait. Il se basa sur un premier principe de foi qui tint résolument toute sa vie. Je demande à Dieu seul et lui pourvoira en m'accordant ce dont j'ai besoin. Alors, si on peut reprojeter le premier verset, voilà, toujours demander et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et Muller a dit, mais moi, je vais ne m'adresser qu'à Dieu. Je vais faire monter à Dieu mes requêtes et je sais, par sa parole, que Dieu répondra. De 1835 à 1850, il prend en charge plus de 300 enfants, au point que la résidence de Bristol ne suffisait plus à contenir tout ce monde. Une deuxième maison fut construite. 20 ans plus tard, plus de 1500 enfants étaient accueillis, répartis dans 5 maisons. Voyez un peu la croissance. George Muller n'a jamais demandé de soutien financier et ne s'est jamais endetté. Seule la prière fervente fut à l'origine de cette grande œuvre, grandiose, même dirais-je. Plus de 20 000 orphelins furent pris en charge. L'éducation prodiguée à ces enfants fut de si bonne qualité que les usines et les mines environnantes avaient du mal à recruter les travailleurs. Bien que le fait du boulot, il y a en même temps. À l'âge de 70 ans, âge où plusieurs songent à la retraite, George Muller amorça une tournée mondiale de prédication qui le conduisit en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient. Et là, par son témoignage, des milliers d'âmes furent sauvées et adoptées par le Père Céleste au travers de la prédication de cet homme de Dieu. Quel impact a la prière sur nos vies, sur la vie des autres et sur le monde alentour. Dans cette période aussi, son soutien fut assuré par les dons de personnes dont le Saint-Esprit avait touché le cœur en réponse aux prières. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, nous avons parlé de l'œuvre de Dieu au travers des animaux. Quand Dieu a dit, va, pêche le poisson, et le premier, tu trouveras de l'argent dans sa bouche. Vous vous souvenez de cela? Il avait cette assurance que s'il demandait avec la certitude d'être dans la volonté du Seigneur, celui-ci répondrait à ses prières, et il le faisait. Il le faisait. Miller priait de tout et espérait que chaque prière soit exaucée. Alors, quelques exemples. Une fois, en traversant l'Atlantique, son navire se retrouva dans un brouillard épais. Ça peut arriver. Cette semaine, je ne sais pas trop travailler, le brouillard il était très dense. Il a expliqué au capitaine qu'il avait besoin d'être au Québec le lendemain après-midi. Imaginez un peu la démarche, l'audace de Miller. Il va voir le capitaine pour lui dire « Non, mais il y a du brouillard, mais moi, demain, je dois être à Québec. » Mais le capitaine lui dit qu'il ralentissait le navire pour des raisons de sécurité et que le rendez-vous de Miller ne serait pas possible. Ce n'était pas prioritaire. Miller a demandé d'utiliser la chambre des cartes en vue de prier pour la dissipation du brouillard. Une deux fois, homme d'action, le capitaine le suivit vers le bras, affirmant que de toute façon, c'était peine perdue. Après que Miller ait prié, le commandant de bord commença à prier, mais Miller l'arrêta à cause de l'incrédulité du capitaine. Non, si tu ne crois pas, ne prie pas. Si on ne croit pas à ces versets-là, notre prière est vaine, elle est inutile. Et en même temps, Miller s'assurait que sa prière avait déjà reçu une réponse. Lorsque les deux hommes retournèrent sur le pont, ils notèrent que le brouillard s'était dissipé. Le capitaine se convertira au christianisme peu de temps après. Dieu agit aussi sur le brouillard. Un autre exemple, une des chaudières de la maison des orphelins avait cessé de fonctionner. Müller avait besoin qu'elle soit réparée. En effet, c'était un problème parce que la chaudière a été imbriquée, inséré dans le mur, et le temps se détériorait de jour en jour. Il pria donc pour deux choses. D'une part, pour que les travailleurs qui l'embaucheraient aient envie de travailler toute la nuit. Pas évident. Surtout, c'est un travail pénible. Et d'autre part, que le temps s'améliore. Alors, il pose deux conditions. Le mardi, avant que le travail ait commencé, un vent du nord souffla le matin avant l'arrivée des ouvriers. Un vent du sud se mit à souffler et il était si doux qu'aucun feu n'était nécessaire pour réchauffer les bâtiments. Nous avons pu éteindre les chaudières définitivement et les réparer. Le chef d'équipe dit qu'il préférait travailler toute la nuit. Parce que le chef d'équipe est arrivé, il a dit « Bon, la journée est terminée, on s'arrête ». Et les ouvriers disent « Non, non, nous on préfère continuer toute la nuit. » La prière de Miller a été exaucée sur les deux points. Et puis un autre exemple, vous voyez, c'est du matériel. Dieu répond au matériel. En 1862, il découvre qu'un égout est bouché. La chose toute bête. Et en plus, à 5 mètres sous terre. Vous voyez, pour y aller, Les ouvriers étaient incapables de trouver le blocage malgré plusieurs tentatives, parce qu'il fallait sonder. Il fallait faire trou de 5 mètres, voir est-ce que la canalisation était cassée là, ou ainsi de suite. Miller pria à propos de la situation et les ouvriers ont trouvé un accord après la prière. où le problème se trouve. Et il y a encore d'autres exemples comme ceci. Cet homme de foi dans l'amour des enfants et des âmes a su exposer au nom d'une foi extraordinaire avec une approche très simple de la prière selon son propre témoignage. J'essaie de garder, dit-il, mon cœur dans une condition telle qu'il n'est pas sa volonté propre. Sur 10 problèmes, 9 sont déjà résolus lorsque notre cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur. Eh bien, si je maintiens mon cœur dans la volonté du Seigneur, lorsqu'il arrive une tuile, on va dire comme ça, le Seigneur répond à la prière. Lorsque nous arrivons à ce point, nous sommes très près de savoir quelle est sa volonté. Alors, lorsque mon cœur est prêt à faire la volonté du Seigneur, je ne remets pas l'issue au sentiment seul, ni à la simple impression. Non, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu au moyen de sa parole et en accord avec sa parole. Au moyen de sa parole, verset que nous avons là, et en accord avec sa parole. Ensuite, j'étudie les circonstances providentielles. Celles-ci, avec la parole de Dieu et son Esprit, indiquent clairement la volonté du Seigneur. Je demande à Dieu, par la prière, de me révéler sa volonté. Durant la Seconde Guerre mondiale, les journaux de Bristol publièrent l'article suivant. L'orphelinat de George Miller à Bristol demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse à ses prières, un chiffre, plus de 18 millions d'euros. Et le nombre des orphelins recueillis s'élève à près de 20 000. Pendant la guerre, il y a eu des bombardements et il y a énormément de vitres qui ont été, plus de 400 vitres ont été brisées sur un orphelinat. Et cet article fait état de cette chose. Elle dit, bien que les vitres de près de 400 fenêtres aient été récemment brisées par les bombes, aucun enfant, aucun membre du personnel n'a été blessé. George Miller a retrouvé son Seigneur en 1898, il avait 93 ans. Ouais. Quel est l'éclairage biblique autour de cela? On nous rappelle de ces versets. Encore une fois, des choses simples, simples à faire. Demandez. Il n'y a pas une liste exhaustive de 45 choses à faire avant de demander. La Bible dit demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Croire que le Seigneur répond à nos prières, croire à son exécution lorsque notre cœur est en accord avec la volonté du Père. Rechercher sa volonté, se mettre à son écoute. Le Père dit bien, je domine mon cœur afin qu'il ne dirige pas lui-même ma vie. Que ma vie ne soit pas dirigée simplement par mes sentiments du moment, mais que les sentiments du Seigneur habitent mon cœur, habitent mes sentiments, dirigent mes sentiments. L'éclairage biblique, n'est-ce pas, nous montre que, avec la lecture de la parole de Dieu, la prière, c'est le deuxième élément de base pour la vie du chrétien. Sans l'un ni l'autre, il n'y a pas de croissance. Müller n'aurait jamais pu expérimenter l'œuvre agissante de Dieu sans cette vie de prière. Jamais. Il aurait très bien pu rester missionnaire et faire ses petites affaires. Non. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu en disant, ce qui est dans la Bible, cette parole de Dieu, elle est vraie. On le sait. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'elle est agissante. Elle agit. L'Esprit de Dieu agit. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Car Dieu écoute attentivement nos prières. Il ne fait pas pour les entendre. Tiens, il y a un qui prie. Non, c'est j'écoute ce que mon enfant a à me dire. Et je l'écoute parce que je l'aime. Et s'il recherche ma volonté, il n'a pas terminé sa prière que je l'ai déjà exaucée. Prier est un acte d'obéissance, c'est un acte de reconnaissance, un acte de soumission, un acte de foi. C'est un moment de conversation avec Dieu. Prier, ça se vit. Bien sûr, ça s'apprend aussi. On apprend à prier. Le Seigneur nous a laissé un exemple de prière. Hein, notre Père qui est Dieu, mais ce n'est pas que redit. Uniquement, c'est ma bouche, c'est mon cerveau qui parle parce que je l'ai appris par cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'en ai l'essence? Est-ce que cette prière vit en moi? Et même si elle vit en moi, est-ce qu'elle produit quelque chose? Prier ne doit pas être dicté par les circonstances de la vie. On prie uniquement quand la période est difficile, lorsqu'on rencontre une difficulté, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, je suis perdu. Moi, prier, c'est dans toutes les circonstances. Je te prie, Seigneur, parce que là, aujourd'hui, c'est de la reconnaissance que j'ai pour tel et tel sujet. Seigneur, là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Éclaire-moi, montre-moi. Donne-moi des signes. Éclaire-moi. Le Seigneur fait lever le brouillard. Il fait dissiper le brouillard. Je me souviens, il y a quelques années, nous organisions une sortie avec les enfants, mais la météo était très incertaine. Donc nous avions prié pour que la sortie se passe bien et que le Seigneur nous accorde beau temps, en tout cas. Donc le matin, le jour du rassemblement, les personnes arrivaient et la première chose qui m'a choqué, c'est que je voyais arriver les canons, les parapluies. Ça m'a choqué. Donc j'ai appelé tout le monde, je dis, mais quel était l'objet de notre prière d'hier? Qu'il fasse beau aujourd'hui. Quand il fait beau, est-ce qu'on a un caoué, est-ce qu'on prend un parapluie? Non. Alors vous allez tout laisser ici. Et on va partir sans. Et je me disais, Seigneur, je compte sur toi. Hein? Il n'a pas plu de la journée. Vous voyez ici, c'est un exemple tout simple. Mais je prie pour qu'il fasse beau, mais par contre, je vais quand même prendre mes bottes, mon caoué, mon parapluie, au cas où on ne sait jamais. Elle est où l'efficacité de la prière? Elle est où? Il n'y en a pas. Le Seigneur te dit, mais tu nous demandes, mais tu prends tes précautions. Mais non, tu n'as pas fait l'acte de foi. Tu n'as pas fait l'acte de foi. Alors on peut en sourire, mais examinons bien nos vies. Examinons bien nos prières. Les prières qu'on a pu faire avant. Maintenant, on va être attentif à celles qu'on va faire maintenant. Et je peux vous dire que Dieu agit, mais on manque de confiance. Et quand on manque de confiance, est-ce que Dieu agit pleinement? Souvenez-vous de cette remarque des disciples, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et quand on voit la vie de Jésus, c'était vraiment un homme de prière. Il prenait du temps pour prier. Vous voyez, quand il a dit à ses disciples, allez, mais ne prenez rien. Partir en voyage, quand il va partir, tu pars sans rien. Quand le Seigneur envoie, il a déjà pourvu. C'est ça que je veux dire. Le Seigneur a déjà pourvu. Alors, si le Seigneur m'envoie en mission, par exemple, donc, alors, il faudrait prévoir plusieurs cantines, les vêtements, les machins, les trucs. Je ne dis pas qu'il faut partir. Attention, hein, il faut partir en maillot de bain. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur pourvoit. Le Seigneur n'a pas permis que Müller se retrouve avec 1500 enfants pour les faire mourir. Mais Dieu avait un homme de prière aussi devant lui, qui s'attendait à Dieu, qui s'attendait à ce que Dieu agisse et Dieu agit. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous permette réellement, vraiment, puissamment, de se dire, mais la prière est efficace. Amen.